Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Politiquement Vôtre du mois de décembre 2024, la grande émission politique de Mon Paris FM. Dans cette émission, imaginée par les acteurs sociaux des centres Houdini et Goscinny, des jeunes, politisés ou non, rencontrent des personnalités politiques. Le but est de permettre à la nouvelle génération de s'exprimer sur des sujets qui la concernent directement et d'acquérir une vision plus précise de ce qu'est la politique et la façon dont elle affecte leur vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai un plateau avec moi 100% féminin, une fois n'est pas coutume, et j'en suis ravi. À ma droite, notre nouvelle chroniqueuse Camille, dont l'énergie débordante n'a d'égal que sa passion immodérée pour la politique. Comment ça va, Camille ?
Bah écoute, ça va, et toi, Lucas ?
Ça va super, ravi de t'accueillir pour notre première émission ensemble.
Bah écoute, c'est un plaisir.
Super. À ma gauche, Insaf, 18 ans, qui suit une licence de langue arabe, qui aimerait travailler dans les relations internationales et qui participe aujourd'hui à sa première émission de radio. Comment ça va, Insaf ?
Un peu stressé, mais ça va, super.
Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Insaf, on va le dire maintenant, t'as un point commun avec notre invité du jour. Est-ce que tu sais lequel ? On en a parlé un petit peu avant l'émission.
Oui, je crois savoir, oui.
La maman d'Insaf est conductrice de bus à Paris.
À la RATP aussi.
Donc vous êtes peut-être collègue avec la mère d'Insaf, on verra
dans
ça.
Dans le sud de Paris ?
Non, à Paris même.
Okay.
Enfin, oui, bah oui, du coup.
Ouais.
dans le 15e. Son dépôt, il est dans le 15e.
Ah, ok. Ouais.
Très bien, on en reparlera après l'émission. Et donc aujourd'hui, nous recevons Selma Labib, porte-parole du NPA révolutionnaire et tête de liste pour les élections européennes de 2024. Selma Labib, vos parents ont quitté le Maroc à l'époque du règne du roi Hassan II, que vous qualifiez de bourreau d'un régime, d'un peuple maintenu dans la misère, la servitude et l'obligation d'exil. Vous êtes donc né en France et vous y avez grandi. Vous avez dû interrompre vos études pour travailler. À l'hiver 2019-2020, vous participez à la grève de la RATP-SNCF et découvrez la conduite d'une grève, mais aussi la conduite d'un bus. C'est durant la période Covid que vous décidez définitivement d'arrêter vos études pour devenir conductrice de bus. Si, comme vous le dites, conduire un bus n'est pas un rêve d'enfant, c'est un métier utile qui fait tourner la société. Révolté par les injustices et les inégalités, vous vous engagez dès vos 18 ans au sein d'organisations révolutionnaires afin de mener votre combat féministe, antiraciste et pour un monde sans frontières ni patrons. Ce chemin vous mènera au NPA, puis au NPA révolutionnaire. Nous reviendrons plus tard sur ces différentes nuances de l'extrême gauche française. C'est ainsi que vous vous êtes retrouvé en juin dernier, à même pas 29 ans, tête de liste pour les élections européennes avec le NPA révolutionnaire. Première question, Selma, j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette responsabilité et surtout comment on fait pour mener une telle campagne au sein d'un parti avec peu de moyens et sans accès aux principaux médias d'information.
Salut, bah déjà merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça a été une grosse responsabilité. En fait, j'ai eu un peu la première partie de ça pendant les élections présidentielles d'avant, parce que j'étais porte-parole du NPA Jeunes. Donc quand on était avant qu'on, j'imagine on y reviendra, mais avant qu'on se sépare de l'autre partie du NPA, bon voilà, l'extrême gauche c'est compliqué, mais c'est pas le plus important. Et puis il fallait y aller. Comment on y arrive ? On y arrive parce que on n'a peut-être pas beaucoup de moyens, on n'est pas subventionné par le grand patronat, mais on a la force de nos idées et la force militante. En fait, c'est comme ça qu'on a fait cette campagne. Et en fait, comment j'ai réussi à le faire, mais en voyant les trucs, en me disant que c'est pas quelque chose d'individuel, quoi. C'est les idées de tous les camarades qu'on porte, dont, avec qui on discute tous les jours, des collègues, etc. Donc en fait, la force, on la puise là.
D'accord, merci. Donc on va se tutoyer, parce qu'on a dit avant l'émission qu'on allait tous se tutoyer, donc je vais te tutoyer. Et j'aimerais savoir, Selma, où est-ce que tu as grandi et comment est-ce que tu t'es intéressée à la politique ?
Bah, j'ai grandi à Orléans-la-Source. Donc dans les quartiers un peu populaires, mais en pavillon. comment je me suis intéressée. En fait, ça a toujours été là, ça a toujours été dans ma famille. Mes parents, quand ils étaient jeunes, ils étaient un peu militants aussi. Quand ils sont arrivés en France, ils ont continué. Et puis après, bah, c'est tes expériences de vie, c'est ce que tu vois tous les jours. C'est comme ça que je me suis politisée. Donc, je saurais pas trop dire exactement est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait le déclic, mais il y a eu un univers, il y a eu des discussions politiques dans ma famille, dans mes alentours, qui ont fait que déjà je savais que le capitalisme c'était pas trop mon truc. Je savais pas exactement ce que c'était non plus, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et puis après, bah, au fur et à mesure et plus tard en arrivant à l'université surtout, là c'est devenu un peu plus concret quoi.
D'accord. Je vais laisser Insaf poser une question. Vas-y Insaf.
Alors moi j'aimerais savoir quelles sont les raisons qui t'ont poussé à faire de la politique.
En fait, quand je suis arrivée à l'université, donc c'était, il y avait un peu une vie politique, il y avait des syndicats étudiants, donc j'ai commencé un petit peu là-dedans. Et il y a eu, en fait, c'était en 2016, et à ce moment-là, il y a eu une vague de politisation des jeunes. Il y a eu la loi travail, il y a eu des violences policières hyper importantes, il y a eu les flics qui rentraient dans les facs. Tu as eu une certaine convergence parce qu'il y avait les cheminots, l'éducation nationale, le privé, plein d'entreprises qui étaient en grève. Et en fait, je me suis un peu lancée là-dedans, les assemblées générales dans les universités. Donc tu mets un petit pied dans ce que c'est que la lutte, tu vois la solidarité. Tu vois la réalité de ce que c'est la police, tu vois le gouvernement, d'ailleurs c'était un gouvernement de gauche, hein, c'était Hollande à l'époque, et tu vois comment, bon en fait ils en ont un peu rien à foutre. Ouais, je te vois hocher la tête, on peut discuter
de
ce que c'est la gauche, mais
voilà,
bon, c'était le président normal et son ennemi c'était la finance, hein, c'est comme ça qu'il s'est fait élire, donc il faut pas qu'on oublie non plus. Bref, donc voilà, c'est un peu ça ma première expérience vraiment de politisation dans les manifestations et vraiment contre le gouvernement, contre un système, contre une loi travail aussi dont on paye encore les frais aujourd'hui.
Donc l'événement qui t'a le plus poussé à t'engager, ce serait la loi travail, ce serait ces moments que t'as vécu quand t'étais étudiante?
Ouais, après avant ça, j'avais quand même une forte conscience féministe, on va dire. C'est un peu peut-être la première chose aussi par laquelle je me suis dit... quand tu as des inégalités comme ça qui sont aussi importantes, qui sont aussi visibles sous tes yeux, que tu vis toi-même, ça te révolte, quoi. Après, je dirais que 2016 et ma rencontre aussi avec les révolutionnaires, etc., c'est quelque chose qui a donné un sens à mon combat et qui a donné des perspectives aussi. C'est-à-dire, oui, il y a des injustices, oui, il y a des raisons de se révolter, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça et vers quoi on va derrière? Bah, là, ça m'a donné un peu... du fond et des réponses à ce que je cherchais comme perspective, quoi.
D'accord. Et l'extrême gauche était venue naturellement, puisque si on suit les grands médias, on entend souvent que les extrêmes se rejoignent. Est-ce que toi, t'as pas eu peur ou est-ce que t'avais déjà une idée précise de ce que c'était l'extrême gauche quand tu t'es engagée?
Non, j'avais pas une idée précise de ce que c'était que l'extrême gauche avant de m'engager, mais en fait, je sais pas, c'est eux qu'on voit, c'est eux qui sont dans les universités, c'est eux qui militent activement toute l'année. Donc, enfin, en tout cas, moi, c'est ça l'expérience que j'ai eue. Donc après, est-ce que les extrêmes se rejoignent? Franchement, vraiment, je crois que personne ici, à mon avis, n'est convaincu de ça. Je pense pas du tout que ce soit ça la réalité. Moi, franchement, ceux qui... Enfin, tu vois, c'était un gouvernement, encore une fois, un gouvernement de gauche. Donc, aller militer avec ceux qui sont en train de faire passer les lois contre lesquelles tu es en train de combattre, bon, déjà, à la base, elle est pas trop là, quoi. Et puis, quand tu te politises et que tu te politises à travers un mouvement, une mobilisation, ben, en fait, ça vient un peu naturellement, quoi. Et donc, c'est oui, vers ça que je me suis tournée.
Très bien. Insaf, tu avais une autre question, je crois?
Oui. Donc, je voulais savoir aussi donc, quelle est la différence entre l'extrême gauche, l'extrême droite et donc, le reste de la classe politique française.
Alors, entre l'extrême droite et le reste de la classe politique française, franchement, c'est de plus en plus dur de discerner et de distinguer la différence parce qu'ils sont quand même tous ensemble dans le gouvernement. Franchement, la dernière séquence, on y reviendra tout à l'heure, mais elle l'a bien montré. Après, c'est quoi la distinction et la différence de l'extrême gauche? C'est que nous, on pense que c'est pas par les élections, que c'est pas par l'Assemblée, que c'est pas par tout ce système institutionnel qu'on appelle les démocraties bourgeoises que on va réussir à faire changer les choses. Voilà, nous on pense que les choses, elles changent par nos luttes, les choses, elles changent par nos mobilisations et que c'est à nous-mêmes, nous, les travailleurs, les travailleuses, les jeunes, de prendre nos affaires en main et d'aller chercher ce qui est à nous, en fait. Voilà, ça, c'est la grande différence principale entre l'extrême gauche et tout le reste de la classe politique dans laquelle on ne s'intègre pas forcément. Et c'est pour ça que, en fait, les porte-parole du NPA révolutionnaire, ben, c'est moi qui suis conductrice de bus à la RATP et Gaëlle Quirante qui est postier et syndicaliste. Voilà, nous, c'est les travailleurs, quoi. Les travailleurs et les travailleuses, c'est ça. Et c'est ça, ça veut dire qu'on pense que c'est à nous de s'exprimer et qu'il y en a un petit peu marre que ce soit les autres. Ceux qui ont fait des grandes études, ceux qui sont dans les salons, qui s'expriment à notre place.
Et c'est rare les personnes qui font des métiers normaux, déjà qui ont un travail, qui font pas que de la politique. C'est vrai que c'est rare les personnes qui ont des métiers normaux et qui font de la politique aujourd'hui. T'es un peu une exception.
Ouais, après, c'est une exception de l'extrême gauche, hein. Les premiers, c'est Lutte ouvrière qui ont présenté Arlette Laguiller. Donc, c'est les premiers à représenter une femme au présidentiel, une travailleuse. Donc, voilà, ça, c'est notre tradition à nous tous et toutes, les révolutionnaires. Et on y tient parce que, alors on nous dit que les avocats, les connaisseurs de je sais pas quoi, ils peuvent parler mieux que nous. Mais en réalité, quand est-ce que réellement nos préoccupations, les salaires, les licenciements, l'écologie, mais pour de vrai, comment on change vraiment la société pour répondre à ces préoccupations-là, quand est-ce qu'ils les traitent vraiment? Mais en fait, jamais, alors que c'est nos préoccupations de tous les jours. Donc oui, on dit qu'il faut qu'on prenne confiance en la force qu'on a, nous, notre classe, à faire changer les choses.
Ouais. J'aimerais savoir si tu as un cheval de bataille en particulier, une idée que tu veux absolument porter, quelque chose qui te tient à cœur politiquement.
La révolution. nous, on veut changer tout ce système-là, en fait. C'est pour ça qu'on se dit anticapitaliste, communiste et révolutionnaire, parce qu'on pense qu'il faut complètement changer la société. Alors après, qu'est-ce qu'on décide comme cheval de bataille selon les situations? Ça dépend vraiment des situations. En ce moment, aujourd'hui, il y a eu une manifestation de la fonction publique, quoi. Alors contre les 3 jours de carence, le fait que les congés, les maladies soient payées à 90%, ne soient plus que payées à 90% du salaire. Bon, là, le gouvernement est tombé, donc ce sera autre chose qu'ils vont nous sortir. Mais en réalité, c'est toujours la même chose. C'est toujours les coupes budgétaires, etc. Il y a les licenciements. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est terrible parce que c'est des familles entières qui sont privées de travail et qui peuvent pas s'en sortir. Et là-dessus, il y a des grèves aussi. Donc, c'est aussi ce sur quoi les collègues, les jeunes ont envie de se mobiliser. Évidemment, et depuis plus d'un an, c'est cette question palestinienne, alors qui n'est pas nouvelle du tout, hein, parce que, bien sûr, c'est 75 ans d'oppression du peuple palestinien, mais par contre, la politique guerrière, génocidaire de Netanyahou, là, la venue de Trump à Paris samedi, donc nous, on appelle à manifester samedi à 14h à République contre ce génocide et en solidarité au peuple palestinien, au peuple libanais, voilà. On est internationaliste et communiste révolutionnaire, c'est ça notre ADN.
D'accord. Au sujet des licenciements dont tu parlais, il y a de plus en plus de licenciements alors que c'est les entreprises qui gagnent énormément d'argent. C'est quoi votre discours au NPA par rapport à ça?
Alors, notre discours, nous, on est contre les licenciements. Voilà, on pense que personne ne devrait être privé d'emploi. Et ouais, comme tu le dis, là, par exemple, hier, j'étais à Grenoble sur le piquet de grève des Vancorex. Donc, c'est des travailleurs d'une usine de chimie qui se sont mis en grève, mis en lutte parce que leur usine, elle est censée fermer. Elle va fermer. Et donc on voit ça, on voit des travailleurs, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'ils bossent là. Je veux dire, ça fait vivre toute la cité d'à côté. Enfin, c'est ça la réalité. Et du jour au lendemain, on leur dit, tu dégages, t'as 50 ans, tu vas te retrouver sur le marché du travail avec des réformes chômage que Attal a mises en place qui défoncent en fait tous les droits au chômage. Donc c'est ça la réalité. Et derrière, quand ils discutent avec les grévistes, et je leur demandais les actionnaires, ils ont fait combien de dividendes? Ils me disent 17 milliards. Vancorex, 17 milliards. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas garder l'usine et qu'ils ne peuvent pas garder les emplois. Donc franchement, nous, on pense surtout que dans la situation, On s'en sortira pas si chacun se bat de son côté, boîte par boîte. Et on pense qu'il faut que les Vancorex, alors c'est chez Vancorex, chez Arkema qui font de la chimie aussi, chez MA France en Ile-de-France qui sont des sous-traitants de l'automobile, dans des boîtes, plein d'autres boîtes de l'automobile, à Veolia, enfin je veux dire, à Michelin, les sites qui ferment, franchement, il y en a 10 nouveaux par jour, quoi. Et mais si tout cela, ils se coordonnaient et ils se battaient ensemble et ils disaient, maintenant, vous n'allez pas répondre le patron à ses ouvriers, mais l'État et le patronat face à la classe ouvrière qui ne veut plus de ces licenciements, si on posait le problème à cette échelle-là, franchement, ce ne serait pas la même. Donc voilà, c'est ça notre perspective sur cette question-là.
Très bien. Et dernière question à ce sujet. Selma, tu es jeune, tu es impliquée en politique. C'est quoi ton discours pour mobiliser les jeunes qui se sentent loin de la vie politique, qui ne se sentent pas concernés et qui délaissent en fait cette question ?
Bah tu vois, alors j'ai passé un peu de temps à l'université et même franchement à la RATP, il y a plein de collègues qui sont jeunes, etc. et qui ne se sentent pas concernés. D'abord, franchement, naturellement, j'ai envie de dire, je les comprends parce que en fait, ils te disent « Ouais, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas ». Mais quand tu commences à discuter, quand tu discutes de la Palestine, quand tu discutes des salaires, quand tu discutes de l'écologie, quand tu discutes de la réalité de nos vies, mais en fait, bien sûr que si qu'ils font de la politique, bien sûr que si qu'ils ont des idées et qu'ils ont des choses à dire. Par contre, ils n'ont pas forcément des choses à dire pour répondre à ce qui se discute dans les salons. Donc, il faut faire cette distinction. Et donc, quand ils disent « Ah, je ne me sens pas concernée », mais franchement, on en est à l'épisode 458 de la saison 272 des atermoiements du gouvernement. Évidemment qu'ils ne se sentent pas concernés. Mais par contre, la réalité, et c'est ça qu'on dit, en fait, la politique, c'est nos vies. C'est nos vies et c'est de ça qu'il faut qu'on discute et c'est ça faire de la politique.
Donc ce serait sortir un petit peu de toute cette politique bourgeoise, comme tu l'as appelé, la politique qui se fait uniquement par les urnes, mais reprendre un petit peu la politique dans son essence citoyenne, c'est ça ?
Ouais, et puis imposer nos préoccupations, quoi. Imposer nos préoccupations et dire, en fait, c'est nous qui devons, c'est notre politique, c'est nous qui devons dire c'est quoi qu'on veut, c'est quoi ce dont on a besoin. C'est les salaires, c'est pouvoir remplir son frigo, c'est tout ça, c'est des sujets politiques en fait.
Très bien, je te remercie. Et ben, on va laisser la parole à Camille qui a une petite chronique à nous faire.
Alors, moi tout d'abord, en tant que femme politisée de gauche, je tenais à te remercier et à te féliciter pour ton parcours.
Merci.
Et tout ce que tu véhicules.
Merci beaucoup.
Alors comme le disait Lucas, tu es chauffeuse de bus, qui est un métier qui est souvent affilié aux hommes. Tu es une grande militante. Et tu arrives à lier militantisme et vie perso. Et moi, je trouve ça vraiment admirable. Alors, du coup, j'aimerais parler d'un point assez important qui me vient par rapport à ton parcours et à la situation politique en France actuellement. Donc, la politique, comme disait Lucas dans son essence, est censée refléter les aspirations, les défis et les réalités de l'ensemble de la population. Pourtant, force est de constater que les classes populaires, celles qui constituent du coup une grande majorité de la société, sont souvent sous-représentées dans la sphère politique et dans le pouvoir. Cette absence crée du coup un fort décalage entre les décideurs et les citoyens. On retiendra surtout durant les élections législatives de 2022, donc pas les dernières mais les avant-dernières, qu'il n'y a seulement que 8 ouvriers et 26 employés sur les 577 députés, ce qui représente que 6%, alors que c'est 45% de la population active en France, contre 70% des cadres. 70% des députés sont cadres ou professions intellectuelles, ce qui représente 22% de la population active. Donc c'est vraiment pas représentatif. Les classes populaires, donc, on peut constater qu'ils sont exclus ou très très peu représentés dans les décisions qui sont prises par le gouvernement. Permettre à des représentants issus de ces milieux d'accéder à des postes clés, c'est offrir une voix à ceux qui connaissent les difficultés du quotidien, donc comme tu le disais tout à l'heure. Ce n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi d'efficacité politique. Les solutions aux grands défis de notre société naissent d'une compréhension fine des problèmes, et cette compréhension se nourrit de la diversité des parcours et des expériences. Alors moi, je pense personnellement qu'il est temps de briser les barrières et de diversifier nos institutions et de faire de la politique un véritable miroir de la société. Donc je vais un peu accélérer. En toute honnêteté, je pense que le gouvernement Macron, en vrai, avec une telle répartition, était d'avance voué à être un échec. Bon, je pense qu'on a pu le voir.
Oui.
On a pu le voir hier soir.
Oui.
On a pu le constater hier soir. Donc, j'ai plusieurs petites questions, Selma. Penses-tu être une potentielle représentante de cette classe populaire du fait de ton parcours personnel?
Ah, pardon.
Et là, tu réponds d'une tête, je pense que c'est mieux. Et te verrais-tu évoluer dans, dans la sphère politique actuelle et quel poste politique envisagerais-tu?
J'ai oublié la première question, du coup.
Attends, je te la relis. C'était, est-ce que tu te verrais évoluer dans la sphère politique actuelle?
Ça, c'est la deuxième.
Ouais, ça, c'est la deuxième. Et la première, c'est, penses-tu être une potentielle représentante de cette classe populaire du fait de ton parcours personnel
en
et
fait,
professionnel?
Ouais, en fait, nous, on se présente parce que le système électoral, il est fait comme ça. Je veux dire, c'est une personne, voilà, c'est une personne, c'est elle ou lui, d'ailleurs, parce que c'est souvent des lui quand même, c'est lui, voilà, qui représente je sais pas quoi. Donc, nous, on est un peu forcés, entre guillemets, et contraints d'être dans ce jeu-là pour se faire entendre, pour faire entendre nos idées et pour dire que oui, le vote ouvrier, il représente quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaye de dire aussi par ces élections? C'est que, bah, en fait, on peut tous ouvrir notre gueule. En fait, on peut tous parler, on peut tous dire les choses et que déjà ça, c'est un pas. Donc après, oui, je dirais oui dans le sens où on se revendique ou en tout cas, on travaille à être les représentants des intérêts des travailleurs et des travailleuses. Parce que tu as beaucoup parlé de citoyenneté et vous parlez beaucoup de citoyenneté depuis le début. Nous, on a une petite nuance par rapport à ça, c'est que en fait... on trouve que citoyenneté, ça laisse un peu flou les frontières qu'il y a dans la société et notamment la frontière de classe. Parce que nous, on pense que dans cette société, il y a deux classes qui s'affrontent. Il y a les travailleurs et les travailleuses. Et quand je dis les travailleurs et les travailleuses, c'est aussi tous les jeunes qui vont être amenés à le devenir. C'est aussi tous les retraités. C'est aussi tous ceux qui sont privés d'emploi, hein, qui travaillent pas, qui sont au chômage. Donc voilà, ça, c'est la grande majorité de la population. Et en face, il y a le grand patronat. Et quand je dis le grand patronat, c'est pas le mec qui tient son café, c'est pas ça. Le grand patronat, c'est les Bernard Arnault, les Elon Musk, les tout ça, ceux qui détiennent les milliards entre leurs mains. Et donc, pour nous, c'est important de parler de cette distinction-là de la société. Alors, après, est-ce que je m'y verrai et quel poste j'aimerais avoir? Franchement, si on en était à se poser la question, on serait des millions dans la rue. Et en fait, les possibilités de renverser ce gouvernement et d'aller beaucoup plus loin, parce que en fait, nous, on veut quand même, nous, on est pour le pouvoir aux travailleurs, en fait. Donc voilà, on le dit très très nettement, et on pense pas du tout que ce soit utopiste. On pense que ce qui est utopiste, c'est de penser que on peut encore s'en sortir avec ce système-là dans lequel on vit aujourd'hui, qui est complètement absurde, qui marche sur la tête de tous les points de vue. Donc voilà, est-ce que je me verrai à telle ou telle place? Franchement, je me pose pas du tout ces problèmes-là de cette façon-là, quoi. On réfléchit pas comme ça. J'arrête, je parle longtemps.
Non,
ouais.
Non. C'est en fait une question qui m'est venue du coup, parce que du coup tu parlais au début de ta présentation des luttes durant la loi travail. Donc pareil, j'étais à Nanterre. Donc pareil, on a beaucoup vu ça aussi. Il y avait beaucoup de l'UNP aussi qui était présent. Et du coup, ma question, c'était pour toi, est-ce qu'on devrait changer complètement le système politique actuel ou juste changer de république? Comme le proposait Mélenchon à l'époque.
La 6ème République, c'est ça, oui, dans le programme des Insoumis.
Ouais, mais en fait, pour nous, cette démocratie-là dans laquelle on vit, c'est un théâtre. Et tu l'as dit toi-même, tu vois, cette démocratie-là, c'est un théâtre. Et en réalité, qui est-ce qui dirige? En fait, c'est pas tellement l'État, c'est le patronat. Je veux dire, et on le voit à chaque élection, ils passent tous, et alors même Bardella, hein, qui se dit l'ami des ouvriers, etc., bon, personne ici n'y croit, mais je veux dire, il y en a plein quand même qui y croient un petit peu, il est allé devant le MEDEF faire allégeance. Ils vont tous devant le MEDEF faire allégeance. Donc, c'est eux qui décident. Donc,
Fabien Roussel aussi, mais c'est une autre histoire.
Bah ouais, ben bien sûr, bien sûr. Mais donc, non, mais du coup, elle se joue, la démocratie pour nous. La démocratie, elle commence quand on s'arrête de travailler et qu'on décide de comment on va s'opposer à nos patrons. Donc non, on n'a aucune illusion. Pour moi, c'est encore un pis-aller. Enfin, je veux dire, c'est comme, on y reviendra peut-être, mais enfin, c'est comme nous faire croire que c'est en mettant un bulletin dans l'urne qu'on va lutter contre l'extrême droite. Pour moi, c'est vraiment, c'est des trucs qui sont pas possibles et qui sont vraiment problématiques, quoi. Donc non, nous, on est pour tout renverser. Alors, est-ce qu'on va tout raser? Non, évidemment pas, c'est pas le problème. Ce qui existe aujourd'hui, je veux dire, on va pas raser cet établissement. Par contre, on va pas raser non plus les entreprises. Mais par contre, dans mon dépôt, dans le dépôt de ta maman, ben, en fait, on va se dire, bon, à quoi il nous sert, les tauliers? Enfin, franchement, à quoi ils servent ? Bon, bah, en fait, on peut très bien se débrouiller par nous-mêmes et c'est ça qu'on a décidé de faire. Et puis, on va embaucher plus. Et puis, enfin, vous voyez, répondre aux besoins de la population, produire selon les besoins de la population, selon les capacités de la planète et pas selon les profits du patronat. Voilà. Et pour ça, eh ben oui, il faut en finir avec le patronat. Voilà. Donc, c'est pas la 6e République qui nous aidera à ça, je pense.
Du coup, j'ai une dernière question. En fait, tu parles beaucoup de vote dans les urnes et un truc qui me vient énormément sur la question du droit de vote, c'est le vote blanc. Le vote blanc et l'abstention. Est-ce que tu penses que reconnaître le vote blanc comme étant... Enfin, compter le vote blanc pourrait... Enfin, après, avec un autre système politique derrière qui voudrait qu'on refasse des élections, est-ce que tu penses que ça pourrait être utile de prendre en compte le vote blanc ?
Ben, en fait, je me dis... Tu vois, genre, quand tu regardes, ils parlent que de ça, les médias, dans les élections. Enfin, que de ça, j'abuse, mais ils en parlent beaucoup, quand même. Oh, regardez, comme les gens, ils votent pas. Donc, bon, tout le monde le sait. Donc, franchement, je sais pas. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est de s'adresser aussi à tous ceux qui votent blanc ou à tous ceux qui vont pas voter en disant, mais en fait, le vote révolutionnaire, il veut dire quelque chose. Et c'est un vote blanc, mais qui signifie quelque chose. C'est-à-dire, c'est un vote qui dit non, on ne croit pas en votre système. Par contre, on pense qu'il y a une perspective dans le fait de se battre par soi-même, de se battre par nous-mêmes et de se battre en tant que ce qu'on est, en tant que notre classe, quoi. Donc, enfin, je sais pas. Enfin, genre, en fait, il y a eu tellement des lois, des tentatives, des choses, etc., que au bout d'un moment, enfin, tu vois, tu les entends et puis ça finit par te parler, par passer au-dessus la tête des gens, quoi. Donc, non, j'y crois pas trop.
D'accord. Moi, j'avais une dernière question par rapport à ce sujet. C'est qu'on a parlé avec Camille du fait que la majorité des députés ne sont pas issus de familles d'ouvriers ou d'employés. On avait regardé avec Camille hier, là, c'est 6% en 2022. C'était tombé jusqu'à 1% en 2012 de députés issus de familles ouvrières et ouvriers. Et toi, en tant que jeune, en plus femme issue de l'immigration, travailleuse, etc., est-ce que des fois, alors que ça ne devrait pas être le cas, il n'y a pas un sentiment d'illégitimité qui peut apparaître en voyant tous ces hommes blancs en costume qui se sont, eux, technocrates, qui font la politique depuis tant d'années en France ?
Non, enfin, franchement, d'abord, je n'ai pas trop été confrontée à eux en réalité. Et en fait, enfin... Je sais pas, hein, si, tu vois, il y a comme dans les présidentielles, un truc avec tout le monde, etc., c'est peut-être pas forcément évident, mais en fait, dans ces moments-là, je les déteste, quoi. Je sais pas comment dire. Non, mais franchement, genre...
Comme ça, c'est dit.
Mais non,
bien.
Mais tu vois, donc, et je pense à tous ceux qui pensent comme moi, et enfin, je les admire pas, je les méprise en vrai.
C'est faire la politique autrement, c'est
ouais.
Ça? D'accord, qui partirait par le bas et non de personnes qui seraient en haut et qui décideraient quelque chose de beaucoup plus horizontal.
Ouais. Et puis ils sont tellement déconnectés de notre réalité que franchement, bon, évidemment, hein, ce serait un peu intimidant, mais je leur montrerai pas. Hors de question.
Hors de question, très bien. On va parler du coup maintenant de ton organisation et des organisations d'extrême gauche, puisqu'on a notamment vécu un moment de vie politique française, c'était à l'été dernier, donc au moment de la dissolution et des législatives anticipées, il y avait cet argument toujours pour disqualifier la France insoumise, vous êtes d'extrême gauche. La France insoumise n'est pas d'extrême gauche, mais toi, tu l'es. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, quelques phrases, qu'est-ce que c'est l'extrême gauche ?
En quelques mots, en quelques phrases, qu'est-ce que c'est l'extrême gauche ? L'extrême gauche, c'est un courant politique, révolutionnaire, qui, nous, en tout cas, notre courant révolutionnaire, voilà, qui se revendique du marxisme, qui se revendique du léninisme, du trotskisme, même de, je vais vous dire des grands mots ou des grands trucs d'histoire qui datent un peu, mais qui se revendique de la révolution russe et du renversement, quoi, de l'État bourgeois et du capitalisme. Donc nous, on se revendique de ça. C'est un courant qui existe depuis que le capitalisme s'est développé, en fait, de par les analyses notamment de Marx et toutes les luttes ouvrières, en fait, qu'il y a eu depuis ce moment-là, la Commune de Paris, 1848, et j'en passe. Dans les grandes lignes, c'est ça l'extrême gauche, plus que ce que je vous disais au début, de comment on pense que c'est possible de renverser la société et de ce qu'on pense de cette façon-là aujourd'hui, de ce que c'est que cette démocratie de ce que c'est que cette démocratie bourgeoise. Et une dernière chose, parce que j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début, mais je l'ai dit comme ça, mais on est internationaliste. Voilà, donc l'extrême gauche, elle se revendique de l'international. Donc ça a été la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, puis la deuxième, la troisième. Bref, en tout cas, on se revendique internationaliste. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on se sent beaucoup plus proche des ouvriers au Maroc, au Bangladesh, n'importe où dans le monde, que du patronat de notre propre pays. Et ça, c'est hyper important. Et d'où notre solidarité, bien sûr, avec le peuple kanak, avec le peuple martiniquais qui lutte quand même en ce moment contre l'inflation, avec le peuple palestinien, avec tous les peuples en fait qui subissent les mêmes réalités ou pire que ce qu'on subit. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important, hein. Travailleurs et travailleuses de tous les pays, unissons-nous. C'est Marx qui disait ça à l'époque, mais c'est encore ultra réel aujourd'hui, surtout quand leur politique c'est de vouloir fermer les frontières.
Insaf, est-ce que c'est quelque chose que tu connais, toi, le marxisme ? Est-ce que tu sais ce que c'est Karl Marx ?
Ah oui, j'avais la SPSES en terminale,
du
coup.
Vous l'avez étudié en cours ? Ouais. D'accord. Ouais. Parce que quand tu dis le marxisme, peut-être qu'il y a une lutte des classes, c'est pas évident pour tout le monde.
Ouais, bien sûr. Non, mais évidemment. Et franchement, j'ai pas du tout la prétention en deux minutes de résumer qui est Karl Marx. Mais je disais, en fait, au moment où le capitalisme il s'est développé, la classe ouvrière, elle s'est développée. Et en fait, ce capitalisme et cette bourgeoisie, elle s'est développée par les moyens les plus violents, c'est-à-dire en dégageant de façon ultra-violente des paysans de leurs terres et en les envoyant dans les usines, par la colonisation. C'est comme ça que s'est faite ce qu'on appelle l'accumulation primitive des richesses, voilà. Et en fait, c'est comme ça que la bourgeoisie, elle s'est quand même créée, quoi. Depuis qu'il y a en fait une classe ouvrière qui existe, il y a des luttes qui existent. Et donc Marx, juste, c'est bon, voilà, un militant qui a un peu vu que la classe ouvrière, en fait, elle pouvait renverser le capitalisme, parce que le capitalisme et la bourgeoisie, parce que c'est elle qui est liée directement à ces bourreaux, on va dire. Et donc pour se détacher de ces chaînes, de cette exploitation qui existe encore aujourd'hui, même si c'est pas exactement les mêmes formes que ce qu'on connaissait à l'époque.
Très bien. Moi, j'ai une question par rapport à ça, à l'extrême gauche, parce que vous êtes plusieurs partis à se réclamer du marxisme. Il y a Lutte ouvrière, il y a le NPA, le NPA révolutionnaire, Révolution permanente. Donc des fois, on s'y perd. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi la différence, la singularité de ton mouvement à toi par rapport aux autres mouvements d'extrême gauche ?
En fait, c'est un peu compliqué.
Je sais.
Parce que d'aller dans les détails des détails, mais d'abord, nous... La politique qu'on mène vraiment et qui est hyper importante pour nous, c'est celle justement de développer un pôle des révolutionnaires aujourd'hui. Parce que justement, ces distinctions, en fait, elles sont minimes. C'est sur des formes d'intervention, c'est sur des nuances, sur ce qu'on pense de telle ou telle situation, c'est sur même des développements historiques qui se sont faits séparément. C'est sur... Alors après, le NPA, l'anticapitaliste, c'est un petit peu différent parce que, pour le coup, on s'est séparés parce qu'on a aussi des distinctions et des désaccords sur le rapport qu'on a à la gauche. Et ça, c'est pas rien. Mais pour ce qui est des autres organisations et notamment de Lutte ouvrière, on a plus envie de discuter de ce qui nous rassemble et de pouvoir s'exprimer ensemble. Alors, on a fait les propositions à plusieurs reprises dans le cadre des élections de le faire ensemble. Pour l'instant, ils ont refusé. C'est pas grave, on continue d'exister. Mais on pense que, justement, on gagnerait à militer ensemble et à s'exprimer ensemble contre la guerre, sur notre internationalisme, sur la nécessité de l'augmentation des salaires, sur la nécessité d'une lutte d'ensemble contre les licenciements, etc. etc. Donc j'aurais plus envie d'insister là-dessus. Après, c'est pas pour me défiler, mais c'est parce que vraiment, je pense que c'est ça qui compte. Et je pense aussi que cette volonté d'un pôle des révolutionnaires, ça fait notre distinction dans l'extrême gauche, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est un peu les seuls à défendre l'urgence de cette perspective-là.
Très bien. Camille, vas-y.
Alors moi, j'ai une petite question, parce qu'on mélange souvent extrême gauche et gauche radicale. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence, selon toi, entre l'extrême gauche et la gauche radicale ? Et c'était des exemples de partis, par exemple.
De la gauche radicale ?
Ouais.
Alors, je sais pas. Pour moi, je dirais que peut-être... Après, enfin, je sais pas. Parce que pour moi, il y a... Tu vois, il y a une gauche qui est celle de... qui postule à gérer l'État et la société telle qu'elle existe, quoi, et qui postule à répondre aux affaires de la bourgeoisie. Et dans ça, j'inclus la France insoumise, en fait. Et il y a la gauche révolutionnaire. Alors nous, on ne l'appelle pas trop la gauche révolutionnaire, mais voilà, il y a l'extrême gauche. Donc peut-être que la gauche radicale, ce serait aujourd'hui la France insoumise. Je ne sais pas si c'est à ça que tu penses. Ok, mais tu vois, si on prend l'exemple de la Palestine, alors ils en ont beaucoup parlé pendant les élections. Ils en ont beaucoup parlé pendant les élections. Ils étaient beaucoup présents en manif et maintenant, beaucoup moins. Et est-ce que c'est... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que tout ce qui a été même de l'ordre du symbolique de sortir les drapeaux palestiniens à l'Assemblée, de mener les luttes institutionnelles et dans l'ONU et tout ce que tu veux, ok, très bien, qu'ils le fassent. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ça a rien donné, en fait. Enfin, je veux dire, on en est toujours à la même situation. Donc, voilà, pour moi, c'est ça qui distingue. Est-ce que tu penses que par les institutions, tu vas changer les choses? Est-ce que tu penses que par les institutions, tu vas faire arrêter un génocide? Ou est-ce que tu penses que c'est par autre chose qu'on va y arriver? Et est-ce que les manifs, elles servent à appuyer le travail que tu fais dans les institutions? Ou alors, elles servent à imposer un rapport de force face à tous les États occidentaux, États-Unis en tête, France et Allemagne derrière, qui soutiennent concrètement ce génocide?
Très bien. Insaf, je crois que tu avais une question à ce propos.
Oui. Tout à l'heure, tu as utilisé le terme internationaliste. Et tu t'es qualifié d'ailleurs d'internationaliste. Est-ce que tu pourrais nous le définir
Ouais, ben, comme je disais, c'est l'internationalisme, c'est l'idée, sans frontières ni patrons. C'est l'idée que travailleurs et travailleuses de tous les pays, unissons-nous. C'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui et qu'on oppose au nationalisme. Qu'on oppose au nationalisme parce que, en fait, aujourd'hui, ces idées-là, nationalistes, elles sont présentes, mais bien au-delà de l'extrême droite. Et ça, c'est un vrai problème. Elles sont présentes, évidemment, à droite, mais elles sont aussi présentes à gauche, et même dans cette gauche radicale qu'est la France insoumise, ou le PC, alors là, j'en parle même pas, mais on pourrait d'ailleurs. Parce que quand, par exemple, je reprends l'exemple des licenciements, mais quand, face aux licenciements, on dit que le problème, c'est y a les ennemis, c'est les grands patronats de l'extérieur et qu'il faut réindustrialiser la France, etc. Quand on défend ce protectionnisme-là, franchement, c'est une illusion de penser. Enfin, le capital, eux, les capitaux, ils n'ont pas de frontières. Ils se déplacent comme ils veulent. Et ben nous, on est pour l'ouverture des frontières et la liberté de circulation. On trouve que, par exemple, la politique qui est à l'échelle européenne menée par la France et l'Allemagne, encore une fois, parce que c'est eux quand même qui décident de ce qui se passe à l'échelle de l'Europe, de fermer les frontières et de faire que la Turquie, et d'autres pays, l'Italie, etc., ce soit des endroits où on garde les migrants dans des conditions mais horribles. Enfin, je veux dire, c'est l'Europe aujourd'hui qui est responsable, qui est des centaines de migrants, des centaines de milliers de migrants qui meurent tous les ans dans la Méditerranée. Bon, mais ça, c'est pas possible. C'est des travailleurs qui viennent ici, et d'ailleurs des travailleurs qui sont surexploités ici et dont on dégrade les conditions de travail. Mais on commence par les travailleurs migrants, et derrière, c'est quoi? Bah, en fait, c'est l'ensemble de notre classe. Donc nous, on est pour une solidarité entre nous tous. On pense que les frontières, on peut les ouvrir, qu'il y a les moyens, franchement. Donc on est pour l'ouverture des frontières et la liberté de circulation et d'installation.
Okay. C'était clair, Insaf?
Super clair.
Je te remercie.
Ça va.
Mais du coup, alors, ce que tu nous dis me semble très clair. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de s'entendre entre partis d'extrême gauche sur cette ligne révolutionnaire, internationaliste, etc.? Est-ce que c'est des différences philosophiques? Est-ce que c'est des différences de stratégie, comme tu l'évoquais? C'est quoi vos différences?
En fait, je pense que c'est difficile de s'entendre parce qu'aujourd'hui, notre voix, elle porte pas énormément. Voilà. Je pense que la perspective, déjà, de penser que par les luttes, on peut gagner, ben, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui a le vent en poupe, quoi, de penser que par les... D'ailleurs, il y a des raisons à ça. Il y a des raisons qui sont les politiques des directions syndicales, qui sont les politiques de la gauche et de comment on enferme les mouvements dans des impasses. Tout ça, ça a des vraies réalités sur l'état d'esprit de notre classe et la confiance qu'on peut avoir en notre capacité de se battre et de gagner. Donc ça, c'est un problème. Et je dis ça parce que je pense que tant que il n'y a pas aussi quelque chose d'aussi important que ça. C'est facile de trouver des nuances et des distinctions. Et si on, quand on est des milliers dans la rue, bon bah, ces distinctions, elles s'effacent quand même beaucoup plus facilement, quoi. Après, voilà, c'est des traditions historiques un petit peu différentes. C'est des groupes aussi qui peuvent venir aussi à la base d'autres pays, qui viennent ici, qui construisent leur groupe ici. Et donc voilà, c'est en fait. Même historiquement, si on revient là-dessus, mais les révolutionnaires, les trotskistes, parce que nous, on se revendique du trotskisme, de ceux qui luttaient contre le stalinisme, justement, ça a eu du mal à se développer du fait de la chape de plomb du stalinisme à l'époque. Et ça a fait qu'il n'y a pas eu un mouvement qui s'est développé comme s'est développée la première, la deuxième ou la troisième internationale. Et ça, c'est une grosse épine dans le pied qu'on a aujourd'hui et qui explique aussi en partie le fait que cette extrême gauche soit aussi éclatée. Et maintenant, je le redis, notre responsabilité, c'est comment on la réunit à nouveau.
Très bien. Je vais laisser Insaf continuer.
J'avais une autre question. Du coup, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il n'existe pas un seul et même parti capitaliste et révolutionnaire.
Et comment
capitaliste.
Anticapitaliste.
Et
vu que tu as partiellement répondu, comment le construire justement partant du constat que tu viens de faire?
Ben, nous, c'est pour ça, on y travaille. Comment le construire en s'adressant directement à ces organisations déjà, en essayant de voir les possibilités, y compris de se présenter ensemble pour dire tous ensemble, voilà, ce qu'on pense de cette société, de comment on pense qu'il faut la renverser. Après, pour construire vraiment un parti révolutionnaire, parce que c'est à ça qu'on travaille, bien sûr. Alors d'abord, on ne le construira pas sans tous les travailleurs et les travailleuses, parce qu'un parti révolutionnaire, un parti des travailleurs, bon bah, il faut qu'il y ait des travailleurs dedans et des travailleuses. Bon, c'est ce à quoi on s'attelle en priorité. Mais aussi, c'est réussir à avoir des expériences en commun avec d'autres révolutionnaires. Et ça, ça peut paraître des petites choses, mais voilà, nous, c'est l'expérience qu'on fait dans notre nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. Parce que c'est des courants qui jusque-là se croisaient, discutaient, mais ne militaient pas réellement ensemble. Et là, aujourd'hui, depuis qu'on a été contraint par le départ de l'autre partie du NPA, bah, on fait ce travail-là de militer en commun, d'avoir des expériences en commun, de discuter jusqu'au bout de certaines expériences, de certaines grèves qu'on a pu mener, de certaines analyse de la situation, de ce qui se passe, de la guerre en Ukraine, de la Palestine, de tout ça. Donc voilà, c'est aussi petit à petit prendre le temps d'avoir ces expériences communes et de construire ensemble ces perspectives-là.
D'accord. J'essaie pas de te mettre en porte-à-faux, hein, mais en t'écoutant, j'ai quand même pas l'impression qu'il y ait une grande différence de discours entre toi et des personnalités comme Anas Kazib, Philippe Poutou, Olivier Besancenot. Donc quelque part, il y a quand même une espèce de fragmentation qui est dommage et qui vous dessert quand même aussi bien politiquement que médiatiquement.
Alors après, sur Philippe Poutou et Olivier Besancenot, franchement, après surtout l'expérience qu'on a eue là du NFP, quoi. Voilà.
Je rappelle juste que du coup, quand Selma Halabib voulait soutenir plutôt un rapprochement avec Hello, c'est ça.
Ouais.
Comme il
n'y
avait pas de candidat NPA aux législatives, Poutou et Besancenot ont annoncé qu'ils soutenaient la France Insoumise, c'est ça?
Oui, alors c'est pas parce qu'il n'y avait pas de candidature, c'est que c'était leur politique, en fait,
d'aller en soutien du nouveau Front.
Voilà, de faire un front, de reconstruire une gauche radicale, justement. Je vais te regarder à chaque fois, mais je ne t'associe pas à ça, à chacun. Non, mais donc je pense que là, il y a par contre une vraie nuance. Une vraie nuance parce que tu ne peux pas à la fois te présenter avec le NFP et en même temps combattre la façon dont on pense qu'il faut lutter contre l'extrême droite ou donner les illusions que c'est en mettant un bulletin dans l'urne que, enfin, ce que j'ai déjà dit. Ensuite, avec le reste, mais en fait, c'est difficile pour moi de répondre parce que notre politique est justement d'essayer de faire ensemble et de faire avec notamment Lutte Ouvrière parce que c'est la plus grosse organisation révolutionnaire aujourd'hui. Mais si tu veux, on a proposé pour les européennes, on a proposé pour les législatives, on propose à chaque fois qu'on en a l'occasion, on participe à leur fête, on les invite à la nôtre, on débat ensemble. Mais maintenant, s'il refuse, chacun est responsable aussi de la politique qu'il mène. Donc nous, on propose ce pôle des révolutionnaires. Ils ne veulent pas y participer pour l'instant. On ne va pas non plus disparaître pour autant. Au contraire, on veut que cette idée, elle prenne de la force et qu'elle soit défendue d'autant plus fortement dans les temps à venir, parce qu'on pense que c'est ça aussi qui peut les faire changer d'avis.
Oui, c'est vrai qu'on a vu déjà que Hello, ils ont du mal avec les alliances, ça date pas d'hier. Camille, vas-y.
Parce que du coup, on parlait du NFP. Moi, j'ai une petite question, parce que le NFP, du coup, c'est un regroupement des partis de gauche.
Et de centre-gauche, on peut le dire.
Il y en a certains, je ne les qualifie pas de gauche du tout. Mais
très bien.
C'est un avis qui n'engage que moi. Est-ce que tu penses que le NFP finira comme le front de gauche qu'il y a eu dans les années 2010? Parce que c'est pareil, une alliance de gauche au final. Hein.
Bah là, il a déjà explosé le NFP en réalité. Là. Enfin, je veux dire, entre le PC et les écolos qui se mettent derrière le PS et qui disent « Ok, nous, on est responsables, on ne veut pas du tout que... » Et puis de l'autre côté, la France Insoumise qui sont... ce sera soit quelqu'un du NFP, soit personne. En fait, ils sont déjà extrêmement divisés. Quoi. Donc bon, ces alliances-là... c'est toujours un peu des calculs d'apothicaire, c'est toujours un peu des acquis. Et franchement, on l'a vu, enfin, je veux dire, c'était quand même... D'abord, je redis, mais quand même nous inviter à voter pour Borne pour lutter contre l'extrême droite pendant les législatives, c'est quand même un peu salé, quoi. Et pour que ça donne ce que ça a donné aujourd'hui, enfin, vous voyez, mais nous on a gardé la même ligne depuis le début. Et ce n'était pas facile pendant les législatives parce que forcément, il y a la peur de cette extrême droite. Donc, évidemment qu'on a pris la pression de tout un tas de gens qui ne comprenaient pas pourquoi on ne s'alliait pas parce qu'il n'y a qu'une alliance de la gauche qui pourra faire que... Mais j'espère qu'en fait, aujourd'hui, les masques, ils tombent quand même un peu. Donc, bon, voilà, ce NFP, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, bah, il a remis en selle Hollande. Bon, voilà. Et le PS, hein, franchement, il les a remis en selle. Il y avait le PS à la manif aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça fait 600 ans qu'on ne les a pas vus en manif. Hein. C'est quand même marrant. Bon, voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ça. Parce que, franchement, juste les masques, ils tombent petit à petit. Et le vrai problème de ça, c'est que les désillusions... de tous les espoirs que les collègues, que les travailleurs, que la jeunesse peuvent mettre dans la gauche, eh ben, elles se tournent aussi vers l'extrême droite, vers ceux qu'on a soi-disant jamais essayé, etc. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas se présenter avec le NFP, parce qu'on sait ce que ça donne les désillusions. Tu as donné l'exemple de 2010, mais il y a aussi l'exemple de Mitterrand, ce que ça a donné derrière. Bien sûr que c'est une montée de l'extrême droite. C'est sous Mitterrand que Jean-Marie Le Pen a été invité à la télé et a eu sa place dans les médias. Donc, voilà, Mitterrand, à la fin de ses meetings, c'était l'international, bon, et la Marseillaise aussi, voilà, mais quand même l'international. Donc, vous voyez, des choses qui ont l'air très, très de gauche, en fait, quand on regarde ce que ça donne derrière, eh ben...
Oui, c'est parfois un petit vernis, quand on gratte, il n'y a plus grand-chose. On reviendra plus tard sur le NFP. Là, l'actualité brûlante, c'est quand même la censure du gouvernement. Insaf, tu avais une question à ce sujet ?
Oui, donc on sait que hier le gouvernement Barnier a été censuré et je voulais savoir si, est-ce que tu es satisfaite de la situation et quelle analyse tu fais de la situation où est-ce que tu te positionnes quoi.
Bon, d'abord, on va pas s'en plaindre. Franchement, que Barnier dégage, c'est pas grave. Franchement, quelque part, le mec, il avait Le Pen au téléphone tous les trois jours pour savoir quelle politique il fallait mener. Enfin, franchement, on va vraiment pas s'en plaindre. Maintenant, encore une fois, comment on analyse cette situation, c'est les masques qui tombent, quoi. tous les calculs, tous les calculs politiciens, etc., qui sont faits. Mais encore une fois, hier, j'étais avant Corex. Aujourd'hui, j'étais à la manif. Demain, je vais retourner au travail. Notre réalité, celle-là, il la discute à aucun moment. Enfin, je veux dire, en attendant, ceux qui sont menacés de licenciement et qui avaient rendez-vous avec le ministre de l'Industrie, à quel moment ça va répondre à leurs problèmes? Ceux qui ne peuvent pas se nourrir, à quel moment ça va répondre à leurs problèmes? Donc, les masques, là, ils tombent. Qu'est-ce que ça va être la suite, comme je disais tout à l'heure, hein, franchement,
ils sont en train de chercher l'alliance la plus large possible. Est-ce que Macron démission, pas Macron démission? Parce que si Macron démission, peut-être que Le Pen, en fait, elle pourrait se présenter avant que la réponse judiciaire, elle tombe. Enfin, je veux dire, mais vous voyez, enfin, ça fait mal à la tête, quoi, au bout d'un moment de tout ça. Donc, bon, c'est une réalité, ça montre leurs préoccupations et qui ils sont. Mais nous, nos préoccupations, elles ne sont pas là. Et on pense que, je finis là-dessus vraiment, mais cette crise qui continue d'en haut, c'est, enfin, je veux dire, ils commencent à ne plus en pouvoir et ceux d'en bas commencent à ne plus en vouloir. Et ben nous, on veut que ça continue d'autant plus. Et on veut que cette crise par le haut, et ben en fait, ça devienne une crise par le bas et des explosions sociales parce qu'on pense que c'est ça qui pourrait donner des perspectives dans la situation.
On voit d'ailleurs que les idées d'extrême droite, hein, autant sur l'immigration que sur la sécurité, elles ont de plus en plus d'influence sur le camp macroniste. C'est ce qu'on avait avec le gouvernement Barnier et ça continue. Et vous, face à cette offensive sécuritaire, raciste et aussi de plus en plus hostile aux droits des travailleurs, puisqu'on voit que régulièrement le droit de grève, par exemple, est remis en cause dans les médias, c'est quoi votre réponse, vous ?
Alors, tu as raison d'abord de souligner que tout ça va ensemble, hein, et que l'ennemi des travailleurs, c'est aussi celui de tous les immigrés, c'est aussi celui des femmes. Enfin, voilà, que ces politiques qui sont menées contre notre classe, elles sont menées contre l'ensemble de notre classe et sa diversité, en fait. Donc déjà, c'est important. Alors oui, les idées d'extrême droite, elles prennent de plus en plus de poids. Elles prennent du poids d'autant plus dans les moments où il n'y a pas de mobilisation. Parce que en réalité, dans les moments où il y a des grèves, il y a des moments où il y a des luttes importantes. Pendant la réforme des retraites qu'il y a eu il y a 2 ans, on ne les a pas entendues, en fait, l'extrême droite. Donc, le problème, OK, l'extrême droite, elle monte. Ça, c'est une réalité à l'échelle internationale. C'est vrai en Hongrie, c'est vrai en Russie, c'est vrai, je veux dire, aux États-Unis, c'est vrai. Voilà, donc l'extrême droite au pouvoir, même rien qu'à l'échelle de l'Europe, c'est une réalité terrible. Maintenant, le constat, il est là. Le problème qu'on se pose, c'est comment on fait pour lutter contre ces idées. Comment on fait pour lutter contre ces idées-là de l'extrême droite? Et ça, eh ben, en fait, on pense que contre... Parce que leur politique, c'est quoi? C'est une politique de division. C'est une politique de toujours pointer du doigt les chômeurs, pointer du doigt, soi-disant, les assistés, pointer du doigt les immigrés, pointer du doigt... Et au final, c'est toujours des travailleurs, des travailleuses qui sont pointées du doigt. C'est toujours la même classe. Bon, bah, face à cette division, nous, on pense qu'il faut réaffirmer et matérialiser la solidarité, notre solidarité ouvrière, notre solidarité de classe, avec, encore une fois, avec toute sa diversité. Mais c'est ça notre problème. Et c'est aussi de dire que le seul moment où l'extrême droite, elle ferme sa bouche, c'est quand on est en lutte, en grève, dans la rue, parce que ça, c'est vraiment pas son truc. Pourtant, elle se dit l'ami des travailleurs, des ouvriers et de tout ce que tu veux. Mais quand on est dans la rue, c'est pas elle qui va faire la tournée des piquets de grève pour aller soutenir les travailleurs en lutte.
Merci. Tu nous as dit aussi au début d'émission que tu étais féministe, que c'était un de tes moteurs de ton engagement politique. Macron avait identifié l'égalité homme-femme comme une grande cause de son quinquennat. Je vois que ça te fait beaucoup rire.
Ouais.
Donc sur les violences, les salaires, l'égalité des salaires ou les soins, on n'en est pas vraiment arrivé à quelque chose qui peut être considéré comme une priorité. Il n'y a pas d'évolution, voire une régression. Quel regard tu portes sur ces mesures et du coup, peut-être le fossé qui se crée au niveau de l'égalité des droits?
Ouais, bah non, mais oui, ça me fait marrer parce que je me rappelle encore d'avoir été devant l'hôtel de ville manifester contre un violeur à l'intérieur et un complice à la justice. Enfin, je veux dire, bon. Plus toutes les autres dingueries qu'il y a eu dans leur sphère. Bon, ça, c'est une chose, mais je pense surtout que... Alors, là, la prévision de budget qu'avait fait Barnier, mais même, en fait, la politique de coupe budgétaire et de casse, en fait, du service public, etc., qui est menée depuis des années contre tous les plus pauvres, mais ça, c'est terrible, en fait, pour les femmes. Quand les femmes, c'est celles qui sont les plus au poste à mi-temps, c'est celles qui sont les moins bien payées, mais ça veut dire quelque chose pour l'indépendance économique, pour pouvoir se barrer quand tu te fais taper sur la gueule, pour pouvoir aller t'adresser à des structures qui font ce travail-là de soutenir, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces structures, le gouvernement, il les ferme. Le gouvernement, il supprime des postes, des centaines de postes dans le travail social. Bon, mais ça, c'est des politiques qui sont contre les femmes. Alors voilà, ça, c'est la réalité. Après, il y a une autre réalité de ça, c'est qu'aujourd'hui, Il y a beaucoup, beaucoup de femmes, et pas que, qui lèvent la tête et qui décident de ne pas se laisser faire par rapport à ça. Et ça, c'est vrai à l'échelle internationale aussi. En Argentine, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai ici, le 8 mars, le 25 novembre, voilà, c'est des journées où les femmes, elles sont dans la rue et en masse. Voilà, et quand il y a des situations comme, le procès Mazan, c'est pas rien, là, le procès des 51, qu'une femme qui subisse ça, elle dise, mais en fait, je ne vais pas me laisser faire et c'est pas à moi d'avoir honte, donc je vais le faire. Ouvertement ce procès, ça c'est quelque chose, et tout ça c'est des bagarres qui sont super importantes pour nous et dans lesquelles on se retrouve, quoi. Donc voilà, y compris pour ça, on pourra s'en sortir que par nos luttes et que par un programme aussi qui soit un programme d'urgence pour l'ensemble de notre classe, parce que oui, c'est la question des salaires, c'est la question des services publics, c'est tout ce que je disais avant, donc c'est une lutte de l'ensemble de la société.
Très bien. On a parlé tout à l'heure de ton rapport avec le reste de la gauche et le NFP. Je crois qu'Insaf, tu avais une dernière question par rapport à ça.
Oui. Donc, aujourd'hui, les espoirs de la gauche, ils sont incarnés par le Nouveau Front populaire. Et comment est-ce que tu te positionnes par rapport à cette entité ?
Comme je le disais tout à l'heure, nous, on n'a pas trop d'illusions sur le Nouveau Front populaire. Voilà. On ne pense pas que... On ne pense pas qu'il y ait de sauveur suprême, quoi, et on ne pense pas que le sauveur suprême, ce soit ce NFP, une alliance, franchement, du coup, au plus petit dénominateur commun, parce que quand tu vas du PS, je vous laisserai débattre si c'est centre-gauche ou quand tu vas du PS jusqu'à la France insoumise, franchement, qu'est-ce qui reste en commun ? Donc, je comprends que ça ait répondu à une volonté d'une bonne partie de la population qui voyait une perspective là-dedans. Mais voilà, même s'il y en a beaucoup qui ont cette idée dans la tête, nous, justement, notre travail, c'est de montrer que... Mélenchon, il disait quand même, voter pour moi, c'est s'économiser des kilomètres de manifestation. Je sors pas les dingueries de Roussel pendant la dernière campagne. Après, la France insoumise, le Parti communiste, etc. On a plein de camarades, y compris dans les syndicats, la CGT, etc. On milite avec, on n'a aucun problème avec ça. On milite avec tous les jours. Moi, au syndicat, je milite avec ses collègues, ses camarades tous les jours. On milite, mais par contre, pour du concret, pour ce qui se passe dans la rue. Donc voilà, être ensemble dans la rue avec tous ces camarades-là, aucun problème. Mais par contre, dans le cadre des élections, on n'a pas grand-chose à dire ensemble.
D'accord. Et tu ne penses pas que face à, par exemple, le spectre de l'extrême droite qui a fait très très peur au moment des dernières élections, c'est pas le moment parfois de se rassembler et de faire quelques petits compromis en espérant qu'ils soient le plus à gauche possible pour essayer d'avoir une alternative crédible au bloc macroniste et au bloc d'extrême droite ?
On a eu la suite de la série, quoi. Tu vois, on a même pas besoin de spoiler. Enfin, c'est déjà ce qui s'est passé, quoi. Ça a donné lieu...
Tu penses que c'est forcément le PS, la ligne PS qui va l'emporter, qui va trahir, etc. et qu'il n'y a aucune chance que ce genre d'alliance puisse subsister ?
Non, je sais même pas si c'est la ligne PS ou la ligne de je ne sais qui je veux dire. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que ça a été Barnier et que derrière, celui qui soufflait la politique à Barnier, c'était Bardella, c'était Le Pen, etc. Et pourtant, c'est le NFP qui a gagné, soi-disant, ces élections-là.
Ils ont gagné, ils sont arrivés en tête, ils n'ont pas eu de majorité. Peut-être que s'ils avaient une majorité, ils auraient pu mettre une politique en place différente qui serait allée plus vers la tienne que celle de... qui est mise en place en ce moment.
Je sais pas, pendant le Covid, que ce soit la France Insoumise, les écolos, le PC, ils ont tous voté les subventions au patronat. Ils ont tous voté les subventions au patronat. Et là, ils font peut-être... Alors, Roussel, il va voir sur les piquets, mais pour défendre quoi ? Pour défendre la nationalisation, le protectionnisme, les méchants de l'étranger qui viennent menacer nos entreprises. Nous, c'est pas ça qu'on a raconté aux collègues, quoi.
À ce sujet, j'aurais une dernière question puisqu'on arrive sur la fin de l'émission. Tu parlais des questions internationales. Tu as un petit peu évoqué la Palestine. On sait que la Palestine et le Liban sont attaqués par Israël. Sur la question du conflit israélo-palestinien et plus globalement sur la question du Moyen-Orient, c'est quoi votre position NPA révolutionnaire ?
Nous, on dit Israël assassin, Macron complice déjà. On pense que ça vient pas de nulle part. Voilà, c'est 75 ans de politique coloniale de l'État d'Israël, mais parce que l'État d'Israël, c'est aussi le gendarme des États-Unis dans la région. Donc, c'est un soutien concret, c'est un soutien militaire, c'est un soutien diplomatique, c'est un soutien financier des États-Unis en premier lieu, mais aussi de la France. Et ça, on l'a vu. parce que on a participé, nous, on a été dans les premiers à se battre concrètement pour qu'on puisse manifester, parce que c'était interdiction de manifester après interdiction de manifester, et tous ceux qui soutenaient la Palestine et qui critiquaient l'État sioniste d'Israël étaient des antisémites. On s'oppose complètement à ça, ça n'a rien à voir avec une guerre de religion, et on est en solidarité, bien sûr, au peuple palestinien et au peuple libanais. Je crois qu'il faut que je m'arrête là, même si je pourrais en parler pendant des heures. Et rendez-vous le 7 décembre à 14h à République pour la manifestation, voilà, pour faire un petit cadeau de bienvenue à Trump.
Je te remercie, Selma. Alors, INSAF, ça s'est bien passé, cette émission ?
Ouais, franchement, super.
Pas de raison voilà, de stresser, du coup ?
Non, ça va. Franchement, j'ai appris plein de choses.
Super.
Voilà, moi, je suis pas... Enfin, c'est pas que je m'intéresse pas à la politique, mais voilà, j'ai pas vraiment grandi dedans. Et du coup, mais là, franchement, ça a été... Bah voilà, super.
Instructif.
Super instructif.
Super. Ouais. Bah, j'espère voilà. te revoir pour des émissions. Camille, notre première émission ensemble, ma nouvelle chroniqueuse. C'était bien ?
Moi, j'ai adoré. Hein, la politique, c'est ma passion. Donc, franchement, j'ai adoré. J'ai découvert du coup Selma en plus. Donc, très bonne découverte.
Super. Je suis ravi. Bah, Selma, merci beaucoup d'être venue.
Bah, merci à vous. Je trouve ça bien et je trouve ça important ce que vous faites. Donc, vraiment, ça me fait plaisir d'être invitée dans ce genre d'émission.
Merci, au plaisir. Merci à Jason qui est à la technique.
Merci,
qui
Jason.
A permis de réaliser cette émission. Et voilà, je vous donne rendez-vous en janvier pour une nouvelle émission de Politiquement Vôtre. Au revoir.